chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour, bienvenue dans cette revue de presse du 19 octobre 2020. Voici les titres de l'actualité. Nous commencerons par un petit retour sur la messe des parlementaires et responsables politiques, célébrée mardi dernier à la basilique Sainte-Clotilde et présidée par Monseigneur Aupetit. Je vous lirai son homélie, actuellement en ligne sur Aletheia. Osons développer nos talents avec la coach Marguerite Chevreuil et auteur de « Ta vie est une mission » paru aux éditions de l'Emmanuel. Identifier nos talents nous aide à savoir quelle direction prendre pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous lirai donc un article paru dans Famille chrétienne de ce mois-ci. Culture chrétienne. Nous irons à la rencontre d'un auteur visionnaire des mécanismes totalitaires d'aujourd'hui, à savoir George Orwell. Il en dénonce trois qui nous déshumanisent aujourd'hui, la surveillance, le mensonge et le déracinement. Toujours pareil, Famille chrétienne de ce mois-ci lui a consacré un dossier. Et nous terminerons en allant du côté de l'enfance et de la sainteté avec le livre d'Hervé Cata, Jésus et les enfants, la première communion, paru aux éditions France Empire. Je vous en dirai plus à la fin de cette revue de presse. Nous commençons avec Monseigneur Aupetit, voilà, qui nous dit « La conscience est le lieu de la rencontre avec Dieu ». Donc, au cours de la messe célébrée mardi 13 octobre dernier, il a prononcé donc, une homélie qui fait parfaitement écho au débat qui traverse notre société. Alors qu'une proposition de loi allongeant le délai légal pour recourir à l'IVG et supprimant la clause de conscience spécifique vient d'être adoptée par les députés, que le projet de loi bioéthique va arriver dans les prochains mois au Sénat pour une deuxième lecture, que la crise sanitaire continue et que le climat social se fait de plus en plus pesant et violent, les choix et les préférences du personnel politique sont observés par les Français. À cette occasion de messe de rentrée des parlementaires, donc célébrée à la basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement, Monseigneur Aupetit a tenu à rappeler tout l'enjeu de cette vocation, garantir la liberté, notamment la liberté de conscience, lieu de la rencontre avec Dieu. L'homélie que je vais vous lire maintenant est actuellement en ligne sur Aletheia. Nous connaissons tous cette parole de Dieu au prophète Samuel. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Cela rejoint ce que nous venons d'entendre dans la bouche du Christ. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes rempli de cupidité et de méchanceté. Trouve-t-on dans Luc chapitre 11, verset 39. Au-delà de la querelle sur le pur et l'impur, nous savons bien que nous vivons sous le regard des autres. La question posée est de savoir comment ce regard conditionne notre pensée et notre action. Au fond, cela est une étape normale dans le développement personnel, car dès l'enfance, c'est un regard qui nous a fait prendre conscience de soi. Avant l'appréhension de sa personne dans un miroir, c'est dans le regard de notre mère que nous pouvons dire « je », comme le confirme le philosophe Martin Buber dans sa thèse sur le « je » et le « tu ». Ensuite, lorsque l'on est petit, on veut plaire à ceux qui nous aiment et que nous aimons. C'est en général à l'adolescence que nous essayons de nous libérer de ce carcan familial, hélas souvent, pour se livrer à l'esclavage de ceux de notre génération. Car le fait d'être prisonnier du regard des autres, pour reprendre les mots de saint Paul, constitue bien un esclavage. Comment trouver la liberté? Celle-ci ne vient pas du mépris de ce regard d'autrui. Il s'agit de passer de cette question qui nous taraude « Que va-t-on penser de moi ?» à la capacité de se regarder paisiblement dans la glace. Quand j'étais évêque en banlieue, nous dit-il, nous avons fait l'expérience de ce passage chez des jeunes qui s'étaient enrichis de manière illicite dans le trafic de drogue en devenant des caïds. Ils étaient extrêmement fiers de se promener dans des BMW que jamais leurs parents n'auraient pu s'acheter. Avec certaines associations, nous leur avons permis de travailler avec du matériel coûteux, qui leur permettait de réaliser par eux-mêmes des œuvres dont ils étaient fiers. Eux, que l'on a toujours traités de nuls, ont pu montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Il passait de l'esclavage du regard des autres à l'estime de soi. C'est cette estime de soi qui génère la conscience autonome délivrée des contingences du prêt-à-penser et de la lâcheté qu'induit le conformisme. Vouloir toucher à la liberté de conscience, par exemple en supprimant l'objection de conscience légitime, c'est porter une atteinte grave à ce qui fonde la démocratie, comme le dit le pape Jean-Paul II dans son encyclique « Santissimus Annus ». Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. Je crois que la conscience est le lieu, non seulement de la liberté, mais aussi de la purification dont parle le Christ dans cet évangile. Plus encore, je crois qu'elle est le lieu de la rencontre avec Dieu. Voilà, c'était l'homélie de Monseigneur Michel Aupetit prononcée mardi 13 octobre dernier pour la messe de rentrée des parlementaires et responsables politiques. Homélie que vous pouvez retrouver sur Aletheia. Quelle est ma mission dans ce monde? Comment porter du fruit grâce à mes talents? La coach Marguerite Chevreuil répond avec un guide pratique, donc son livre paru aux éditions de l'Emmanuel, « Ta vie est une mission ». L'article est paru dans le Famille chrétienne de ce mois-ci. Nous vivons une période de crise où la réalité économique prend parfois le pas sur la prise en compte de la nature de chacun, de ses talents propres et de ses désirs profonds. Beaucoup de jeunes ont choisi leur voie sans se demander qui ils étaient. Il y a une recherche de sens général, et notamment chez la génération Y, pleine de désillusions face au monde de l'entreprise après avoir vu ses parents s'y faire laminer. La base de toute réflexion est d'abord la connaissance de soi. Identifier nos talents nous aide à savoir quelle direction prendre pour donner le meilleur de nous-mêmes et à connaître peu à peu le fil rouge de notre vie, à savoir notre vocation personnelle. Pour un chrétien, la vocation englobe la totalité de l'existence. Chaque vocation se traduit par une mission de vie particulière qui peut se concrétiser dans des tâches différentes tout au long de la vie, en mettant ses talents à profit pour le bien commun. Et cette mission de vie est indissociable d'un chemin de sainteté et d'amour. Car il ne s'agit plus d'avoir accompli une vocation, mais d'incarner un aspect de l'Évangile. Marguerite Yourcenar disait « On passe sa vie à lutter contre ses défauts au lieu de développer ses qualités ». C'est un peu le propre de notre pédagogie française, qui pointe surtout ce qui ne va pas et qui doit progresser. On a parfois aussi une image de soi trompeuse, qui nous pousse à développer des dons mineurs au lieu de nous focaliser sur nos talents majeurs. L'estime de soi peut être confondue avec de l'orgueil, en particulier chez les chrétiens. Effectivement, mais il convient de distinguer le juste amour de soi de l'amour propre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, lit-on dans l'Évangile. S'aimer soi-même, c'est reconnaître le don de Dieu, la merveille qu'il a faite en nous créant. Utiliser nos dons est une source de bonheur, comme l'explique la parabole dite des talents dans l'Évangile de saint Matthieu. Dans ce texte, celui qui n'utilise pas ses talents est jeté dans les ténèbres, ce qui signifie qu'il y a un impératif quasi vital à leur développement. Comment faire pour alors identifier ces talents? On peut commencer par recenser les actions dont nous sommes fiers, qu'elles soient importantes ou mineures. Réorganiser un service au travail, construire une cabane dans le jardin, animer un anniversaire. Ce faisant, on constate que ce sont les mêmes talents qui sont à la base de notre réussite. Une autre méthode consiste à s'interroger sur ce que nous demande notre entourage. Nos talents sont toujours bien remarqués par nos proches. Les tests psychologiques peuvent être intéressants pour affiner la recherche. Personnellement, je recommande le MBTI, un outil d'évaluation déterminant le type psychologique d'un sujet. Attention cependant à nuancer les résultats. D'abord parce que les réponses peuvent être erronées si nous ne nous connaissons pas assez bien. Ensuite parce qu'ils peuvent rapidement nous enfermer dans une case alors que nous avons été créés uniques et sommes tous bien plus complexes qu'un profil type. Découvrir ses talents, est-ce que cela implique accepter ses limites? Bien souvent, les qualités vont de pair avec certains défauts. Dans la découverte de soi, il faut donc accepter les limites de ses talents. Un grand penseur peut être dépourvu de sens pratique. Une personne très organisée peut manquer de créativité. Connaître ses talents ne consiste donc pas à se surestimer, mais à avoir une juste vision de soi-même. J'ai accompagné une personne qui avait du mal à accepter son poste au sein du service administratif d'une entreprise. En analysant ses tâches au quotidien, elle a compris qu'elle était facteur de paix entre les personnes qui travaillaient. Sa vocation se révélait non dans ce qu'elle faisait, mais dans sa façon d'être. Nous pouvons changer de regard sur notre travail, y incorporer davantage de nous-mêmes et de nos talents, y mettre plus d'amour. Dans certains cas, on peut aussi réfléchir à exercer son talent dans une autre sphère de sa vie. Changer de vie radicalement fait souvent rêver quand on est malheureux dans son poste. Mais attention au miroir, aux alouettes. Certains métiers semblent être des voies royales de vocation. Le coaching, les start-up, le développement durable, l'humanitaire. Mais avant de tout abandonner, il est nécessaire de faire une vraie enquête de terrain sur le métier visé et d'évaluer les facteurs de risque du changement au niveau personnel, familial, financier et surtout de la santé. Sommes-nous vraiment prêts à nous lever à 5 heures du matin pour faire du pain? À subir des échecs à répétition dans la création d'une entreprise? Non. d'autres options s'envisagent d'abord. Évoluer au sein de son entreprise, rejoindre une autre entreprise ou encore rester tout en changeant de regard sur son propre travail. C'était les conseils de Marguerite Chevreul, une coach donc qui a écrit un livre « Ta vie est une mission » paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous passons maintenant à la culture chrétienne, en commençant donc par un auteur dont les œuvres entrent dans la Pléiade aujourd'hui, George Orwell. 70 ans après sa mort, cet auteur connaît, on va dire, une consécration prestigieuse tant sa vision saisissante des mécanismes totalitaires se vérifie aujourd'hui. Donc nous allons nous arrêter sur trois mots, donc MAUX de ces mécanismes totalitaires, la surveillance, le mensonge, le déracinement. Le dossier est paru dans Le Famille Chrétienne de ce mois-ci, donc le numéro 2231. De l'écrivain engagé, on ne connaît souvent que 1984, parfois La ferme des animaux, mais moins ses œuvres comme Dans la dèche à Paris et à Londres, Une histoire birmane ou Hommage à la Catalogne. Sa pensée possède une caractéristique majeure, celle de la cohérence. Orwell renvoie dans son œuvre tous les totalitarismes dos à dos d'où qu'ils viennent. L'attachement à la réalité, c'est justement ce qui rend son œuvre si précieuse. Ses écrits ne sont pourtant pas des prédictions. Ils sont simplement la marque d'un excellent observateur du genre humain. Je vous rappelle que George Orwell est visionnaire, mais ce n'était pas un auteur chrétien. Mais il peut nous aider dans la quête de la vérité. Si Orwell est aujourd'hui tellement lu et cité, au point d'entrer dans la prestigieuse collection de la Pléiade, c'est donc qu'il a mis au jour ces trois grands mots, la surveillance, le mensonge, le déracinement. Premier point, la surveillance. Rien n'échappe à Big Brother, donc pour ceux qui ont lu 1984. Il serait faux de dire qu'Orwell avait tout vu. Il n'avait sans doute rien imaginé du prodigieux développement technologique dont nous sommes chaque jour les témoins. Dans 1984, les télécrans, écrans de surveillance placés dans chaque foyer, ne sont que de vulgaires miroirs sans teint dissimulant des caméras. À côté des smartphones, des enceintes connectées, des drones, de la reconnaissance faciale, du Wi-Fi, des écrans tactiles, les télécrans feraient pâle figure. Winston Smith, le héros de 1984, ne peut laisser le moindre pan de sa vie en dehors du champ des caméras, des espions, des micros. Il croit être à l'abri en rencontrant la belle Julia dans la nature. Eh ben non. Ceux qui le surveillent prennent en photo ses ébats. Il se cale dans un coin de la pièce pour être hors de vue du télécran et écrire un journal intime. Des sbires de Big Brother viennent le lire. Car rien n'échappe à Big Brother. L'intuition d'Orwell est donc à chercher ailleurs que dans l'univers plus ou moins futuriste qu'il décrit. Dès que l'on parle de surveillance, on a le réflexe de recourir à Orwell, nous dit un journaliste d'investigation français, Olivier Tesquet. Cela donne l'impression que c'est un livre sur la surveillance, mais ce n'est pas le cas. C'est un livre sur la menace totalitaire. Dans le monde de Orwell, l'État règne seul, sans partage. Dans notre monde, la surveillance vient d'une curieuse alliance entre les entreprises privées et l'État. Au milieu du XXe siècle, la technologie numérique était vue par les personnes qui y travaillaient comme l'outil ultime d'émancipation, par le partage des données, la décentralisation, le fait de pouvoir passer outre la hiérarchie. Deuxième point, le mensonge. Si Orwell revenait parmi nous, il se régalerait. Il constaterait d'abord qu'au moment où l'on supprime le mot « race » de la Constitution, l'obsession raciale n'a jamais été aussi prégnante, conduisant certains à se définir par leur couleur de peau. Cela lui ferait penser à la double pensée qui règne à Océania dans 1984. Retenir simultanément deux opinions qui s'annulent, alors qu'on les sait contradictoires, et croire à toutes les deux. Répudier la morale alors qu'on se réclame d'elle. Cet invraisemblable jargon, Orwell en avait eu aussi la préscience. C'est la novlangue, la langue officielle donc d'Océania, faite pour encadrer la pensée et l'empêcher de dévier. Cet aspect du pouvoir est la clé qui permet d'expliquer le succès sur le plan universitaire et médiatique ces théories fumeuses. Pour lui, elles sont surtout un moyen de dominer et de tenir le fouet. À défaut de convaincre, ils veulent régenter la vie de leurs concitoyens, donc les gouvernants, chasser ceux qui ne pensent pas comme eux et les réduire au silence. Troisième point, le déracinement. Outre la surveillance et le mensonge, l'entreprise totalitaire décrite par Orwell recèle une troisième dimension secrète et pourtant centrale, celle du déracinement qui coupe les hommes de leur histoire, des autres et même de leur intériorité. La mémoire est interdite. Winton Smith, donc dans un des chapitres de 1984, trouve un cahier au papier lisse d'un blanc crème, un peu jauni par l'âge, qui était une sorte qui ne se fabriquait plus depuis au moins 40 ans. Il brave l'interdit de rédiger un journal intime. Et c'est parce qu'il écrit son journal que lui reviennent son histoire personnelle et le goût de la liberté. Nos journaux intimes, inversement, sont bien souvent livrés sur les réseaux sociaux et ne sont qu'une mise en scène de soi en fonction de normes intégrées. Moins une exploration de qui nous sommes qu'une publicité de soi. Sous l'impulsion d'une société ultra-individualiste, l'accès au récit de soi est rendu difficile. Non à cause d'un interdit, d'un totalitarisme d'État, mais à cause de codes intériorisés qui colonisent nos imaginaires et nos représentations de nous-mêmes. Si George Orwell vous intéresse et que vous avez envie de le connaître davantage, je vous renvoie donc aux Familles chrétiennes parues ce mois-ci. Nous changeons complètement de thématique dans cette culture chrétienne. Nous allons maintenant du côté de la sainteté de l'enfance. Hervé Cata analyse dans un nouvel ouvrage intitulé « Jésus et les enfants, la première communion » l'importance que Dieu accorde à l'enfance. Hervé Cata et son épouse Martine, la cofondatrice de la communauté de l'Emmanuel, ils ont eu l'immense douleur de perdre un enfant encore très jeune dans un dramatique accident. Paradoxalement, cette épreuve a encore plus cimenté leur couple et leur foi. Leur fils a laissé une trace lumineuse et durable pour toute leur famille et bien au-delà. Pour Hervé, cela a décuplé son attention à la spiritualité de la petite enfance. Cette spiritualité passe aussi par un culte, désormais quelque peu négligé dans notre partie du monde, celui de Jésus enfant. Pas seulement le petit enfant nu de la crèche de Noël adoré par les mages, ou celui vénéré par le sage Siméon et la prophétesse Anne dans le temple de Jérusalem, mais aussi le jeune Jésus triomphant, issu de toute une spiritualité carmélitaine. Celle-ci s'est développée à partir de l'Espagne du XVIe siècle, et en France suivant, en se diffusant dans toute l'Europe. On en a une manifestation éclatante, avec par exemple la représentation du Saint-Enfant Jésus de Prague. On pense aussi à beaucoup plus simple, la petite statue de Jésus roi d'amour, dont Mère Yvonne-Aimée de Malestroit s'est fait la propagandiste infatigable. Hervé Cata montre dans une nouvelle brochure d'évangélisation, à savoir son livre, que Dieu parle aux enfants à travers toute la Bible. Avec son style habituel, fait de haute culture et de témoignages de vie très personnels, l'auteur pose aux familles une question vitale à ses yeux, celle de la date de la première communion. À la suite des intuitions du pape Pie X, il plaide pour accorder aux petits-enfants de recevoir Jésus dans leur corps le plus tôt possible, avec des éléments de discernement qu'il faut bien entendu préciser. C'est l'objet de ces quelques 24 pages, aussi passionnantes qu'inspirantes. Ce texte simple et convaincant, et des images magnifiques, constitue un événement éditorial qui parlera directement au cœur des parents. Il mérite d'être diffusé largement et médité par chacun. Vous pourrez retrouver cet article dans France catholique, donc un article de Frédéric Aymard. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je vous rappelle les titres d'actualité de cette revue de presse du 19 octobre 2020. Nous avons commencé avec l'homélie qu'a prononcée Monseigneur Aupetit lors de la messe des parlementaires et responsables politiques, homélie qu'il a prononcée donc le mardi 13 octobre dernier et qui est en ligne sur Aletheia. Osons développer nos talents, c'est ce que nous dit la coach Marguerite Chevreuil, auteure de « Ta vie est une mission » parue aux éditions de l'Emmanuel. En culture chrétienne, je vous ai présenté George Orwell, donc auteur visionnaire des mécanismes totalitaires d'aujourd'hui. Je me suis arrêtée sur trois points, à savoir la surveillance, le mensonge, le déracinement à la lumière de son œuvre 1984. Le dossier est présent dans Famille chrétienne, numéro 2231 de ce mois-ci. Et enfin, Jésus et les enfants, la première communion de Hervé Cata, paru aux éditions France Empire. L'auteur analyse l'importance que Dieu accorde à l'enfance et l'importance surtout de faire sa première communion et de recevoir Jésus le plus tôt possible. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous dis avec joie à lundi prochain.